Je ne trouve pas scolaire dans vos contacts. Voulez-vous appeler ?
Est-ce que ça marche ?
Dans l'ouvrage « Ways of World Making », Nelson Goodman présente le concept éponyme de « world making » qu'on pourrait traduire par « construction de monde » ou « fait de faire monde ». Les mondes sont aussi nombreux que les sources qui les produisent et sont exprimés dans des systèmes symboliques, des discours ou représentations visuelles. Dans cet épisode, Enrico Agostini Marchese élargit ce concept pour le penser en termes de pluralisation des visions du monde, d'inclusivité et de responsabilisation. Bienvenue à
Scolaire.
Théorie fonctionnelle. Une balade de diffusion qui nous explique
que la théorie ne sert à rien,
mais qu'elle a le mérite
de nous faire perdre beaucoup de temps.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à Scolaire, on reçoit Enrico Agostini Marchese. Je vais commencer par te laisser te présenter, Enrico.
Oui, bonjour. Alors moi, c'est Enrico Agostini Marchese. Je suis plutôt professionnel de recherche, qui est une figure plus professionnelle, et je travaille au CRIJAD, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l'équité, à l'Université de Montréal, exactement, depuis 4 mois déjà. Puis après, dans les passés, j'ai une maîtrise en philo, un peu un doc en littérature, spécialisation numérique, évidemment, et un postdoc toujours en littérature numérique.
Mm-hmm, merci. Et puis aujourd'hui, donc quelle est la notion que tu vas nous présenter?
En fait, j'ai beaucoup réfléchi parce que je me suis rendu compte que les notions théoriques qui étaient à la base de mon doctorat, aujourd'hui, je les trouve moins opérationnelles dans la vie de tous les jours. Ça m'intéresse de moins en moins, en fait. Et donc, j'étais un peu en train de réfléchir. Et il y a une notion sur laquelle j'ai réfléchi depuis un petit moment qui est connexe quand même à certaines directions de mes recherches doctorales et postdoctorales, qui est la notion de world making, inventée par Nelson Goodman, qui est un philosophe américain. Que les livres, c'est Ways of World Making, qu'on pourrait traduire en français mal par manière de faire du monde, manière de produire du monde, des mondes, le monde, c'est un peu vague. Mm-hmm. Mais c'est intéressant d'explorer justement comment on peut la traduire en français.
Alors j'ai l'impression d'avoir déjà tout plein de questions. Je vais commencer par notre principal, qui est de présente-nous d'une manière donc complexe cette notion, et puis aussi de manière simple, mais j'ai déjà des sous-questions qui vont venir avec ces questions, donc je te laisse.
Alors, il faut aussi dire que ma manière de travailler les notions, c'est aussi complètement de les extraire de leur contexte d'origine. Notamment, j'ai pas lu tous les livres de Nelson Goodman, c'est de la philosophie analytique nord-américaine qui, moi, ça m'intéresse pas du tout, je l'ai jamais aimé. Mais j'ai trouvé intéressant l'idée qu'après, moi, j'ai développé en intégrant d'autres notions. Mais à la base, on pourrait dire, ça vient d'un contexte très spécifique de la philosophie positiviste, de la logique, de la philosophie de l'épistémologie, ontologie, etc. Nelson Goodman l'utilise plutôt pour aller dans son sens de ce qu'il appelle un nominalisme constructiviste. Pour Nelson Goodman, quand on dit pomme, on juste dit pomme, puis on s'entend entre toi et moi sur ce que c'est d'une pomme, mais pomme, en tant que telle, ça veut rien dire, en fait. Mm-hmm. C'est vraiment un nominalisme pur. Puis, avec beaucoup d'articles avec Putnam, des réflexions avec Quine, tous les grands maîtres à penser de la culture anglo-saxonne et analytique. Donc, on va dire plus ou moins la manière plus complexe de l'expliquer, c'est qu'il y a des manières de faire du monde. Le monde n'est pas là. En réalité, il n'y a même pas des mondes. Selon Goodman, il y a des visions du monde qu'on véhicule à travers les mots, les choses qu'on dit. La physique porte une vision du monde qui n'est pas du tout compossible, c'est-à-dire on ne peut pas l'intégrer et l'harmoniser avec la vision du monde de la biologie, par exemple. Ce sont deux choses différentes. Chaque vision du monde fait du sens à l'intérieur d'un cadre de référence conceptuel dans lequel on peut se dire pomme, c'est pomme, puis ok, pomme, c'est pomme, on peut l'apaiser, la manger, mais par exemple, entre les discours du cuisinier autour de la pomme et les discours du physicien autour de la pomme, il n'y a aucun parallélisme possible. Mm-hmm. Ce sont deux expériences complètement différentes et chacun produit des mondes, construit des mondes. Et chaque chose qu'on fait, Goodman, après, ça va plutôt dans la direction des symboles, en venant de la philosophie continentale de Ernst Cassirer sur les formes symboliques. Et il dit, en fait, les symboles aussi produisent des mondes, ce qui était un peu l'avancée intéressante dans la réflexion de Goodman. Et donc, même quand on fait des œuvres d'art, on produit des mondes au même titre qu'on produit des mondes quand on fait des expériences physiques. Mmh. Après, il y a toutes les questions de comment deux mondes se parlent, pourquoi plusieurs mondes, est-ce qu'il y a un seul monde avec plusieurs visions disponibles, est-ce qu'il y a plusieurs visions disponibles qui après on peut réduire dans un monde. sur ça Goodman, parfois un peu moins précis, mais à la base, c'est qu'il y a des multiples mondes. C'est qu'après, par exemple, a été repris par Arturo Escobar dans des mouvances plus décoloniales avec l'idée des pluriverse. Mm-hmm. Ça, c'est une manière très complexe et mais encore très superficielle de décrire la notion de world making ou faire des mondes. Moi, ça m'intéresse pour d'autres raisons et la manière plus simple, c'est dès qu'il y a une activité humaine ou animale, végétale et même non vivante telle qu'on l'entend, ben, on contribue à produire des mondes. C'est-à-dire, c'est sûr que la décomposition de dinosaures ben, a créé un monde dans lequel il y a du pétrole. Il y a aussi la question qu'en fait, on habite à chaque moment, on habite des mondes complètement différents l'un des autres. Mon monde à moi n'est pas le monde à toi. Parce que moi, j'étais assigné homme à la naissance. Toi, j'imagine que non. On ne partage pas du tout le même monde. Et ça, on peut le voir aussi dans des questions très éthiques, très politiques, comme par exemple... Et c'est ça rejoint beaucoup plus les questions sur lesquelles j'ai travaillé. Dès qu'on sort à Montréal la nuit, Montréal, encore ça passe, mettons. Dès qu'on sort la nuit à Paris ou en Italie, du Gélien, quand on a un passing, une apparence masculine ou féminine, on n'habite pas du tout la même ville, en fait. Parce que, ben, moi, je peux me promener tranquillement à 3 heures. Pour moi, la nuit, c'est pas un problème. Moi, j'ai à disposition la nuit. Alors que pour bon nombre de femmes, la ville, la nuit n'existe pas. Donc, moi, je peux pas penser, je peux pas croire qu'on vive dans le même monde. Et donc, après, on peut se réapproprier de cette notion pour des engagements politiques, épistémologiques, blablabla, et plein d'autres choses, en fait.
Ouais, et ça me fait, j'ai envie un peu de poser une question peut-être très fondamentale. Quelle serait donc la définition, disons, épistémologique même de monde? Parce que si un monde, on peut concevoir ça comme une perspective individuelle, mais aussi comme ce qui est créé par un paradigme scientifique, mais aussi par une œuvre toute seule, est-ce qu'il y a des critères pour que quelque chose soit considéré comme un monde? Est-ce que c'est un critère de complétude ou de... Qu'est-ce qu'un monde, en fait, selon cette... Voilà.
Alors, selon Goodman, certaines choses, mais là, je pense qu'on va tranquillement se détacher de la vision de Goodman pour aller plus dans ce qui m'intéresse. C'est en fait, tout est un monde.
OK.
Tout simplement. Peu importe. Toi, tu vis dans un monde. Moi, je vis dans un monde. D'autres personnes vivent dans des mondes. Déjà, c'est super intéressant quand on reprend notamment certaines réflexions de phénoménologistes queer comme Sarah Ahmed. En fait, les mondes existent déjà. Non, on rentre dans un monde. Ça, c'est aussi Nelson Goodman parlait de ça dans une toute autre perspective, évidemment. Mais tout ce qui arrive, arrive déjà dans un contexte qui est déjà là. La biologie les montre, la médecine, si on veut parler de ça, on peut voir, si on prend notamment les réflexions de Gabor Maté, avant de naître, le fait que mes parents aient eu des traumas, leur vie à eux, ont déjà construit un certain monde. Le fait que moi je suis né en Italie, ça m'est construit un monde, à moi, qui n'est pas du tout le même d'une personne qui est née au Canada, qui est née à Haïti, qui est née ailleurs dans le monde, quoi. Et donc, je te dirais de manière très basique, sans vouloir pousser trop loin la question, c'est le monde, c'est tout.
C'est
tout ce qui existe.
Ouais, je comprends. Et tu as une formation aussi de littéraire. Est-ce que tu voyais des liens entre... Donc, constructivisme, monde possible, et donc la fiction et les expériences de pensée et des en fait, je vais plus dans des idées comme les utopies ou des études sur des utopies ou des uchronies. J'ai envie de faire une sorte de pont entre world making et parfois ce qui en littérature ils vont appeler world building ou voilà, je sais pas si ma question est claire, je touche à beaucoup de choses.
Tout à fait. Il faut aussi dire que moi, je suis un littéraire un peu particulier. Moi, c'est plus littérature comparée et quand même théorie de la littérature. Plutôt, je dirais, la littérature comme théorie, plus que théorie de la littérature. Jonathan Coller, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Et donc, moi, j'ai toujours analysé les œuvres littéraires comme des révélateurs de quelque chose d'autre, des oligoptiques, pour reprendre un concept que j'ai développé dans ma thèse, et d'autres choses. En fait, oui, pour répondre à ta question, absolument oui. Dans le sens, on peut prendre tout notamment, tout bêtement, la question d'Eldorado.
Ouais.
Quand on pense au Atlantide, on peut prendre ça. Eldorado, on peut se dire, ouais, mais c'est une utopie, ça n'existe pas, c'est un récit. Oui, mais ça a eu des conséquences pratiques, concrètes, très, très, très réelles, comme des exterminations des peuples, l'exploration de certains ponts, de certains mondes, d'un territoire, une certaine manière de coloniser l'Amérique latine. On peut prendre, il y a une chaîne de montagnes en Afrique qui a, dans les Congos, je pense, qui tous les explorateurs mettaient sur les cartes, mais en fait, ça n'existe pas. Après, on peut prendre, pour aller plus proche de nos jours, les œuvres de William Gibson, qui, de manière complètement littéraire, sort avec un concept de cyberespace en 82. Pour lui, c'était une expérience de pensée, c'est une fiction, quelque chose qui... Ça lui permettait d'inventer une histoire qui n'existait pas. Mais après, le cyberespace est devenu quelque chose... C'est vraiment William Gibson qui a inventé le terme, et on a conçu le cyberespace à partir de comment William Gibson le concevait dans son œuvre, c'est-à-dire un monde complètement séparé dans lequel on se connecte. Ce qui a fait comme conséquence, par exemple, la division qui existe encore aujourd'hui entre les réels et les numériques. On a beaucoup de conséquences qui viennent de là. On peut penser aussi aux récits d'explorateurs comme par exemple Marco Polo ou même les historiens de la Grèce antique qui disaient « Ah, on a vu en Inde, on a vu, il y a des hommes avec des têtes de chien, les cynocéphales qu'on appelait. Mm-hmm. » Et la chose qui, moi, ça m'est fasciné à un point pas possible, c'est pas tant qu'on s'invente des choses comme ça, on peut s'inventer tellement de choses, mais c'est qu'après, vu que des auteurs anciens parlaient de ça, étaient devenus des références de vérité. Et donc, si un explorateur ou une exploratrice allait dans ces territoires, dans ces contrées, et revenait en disant « mais moi, je ne les ai pas vus », on ne croyait pas cette personne. Mmh. Parce qu'on sait que ces choses-là existent. Et donc, c'est aussi des marqueurs de vérité. Et là, on peut voir tranquillement que toutes les expériences des pensées, les fictions, les œuvres d'art, tout ça quand même contribue à créer des mondes qui sont assez réels. Déjà, le fait que ça existe, qu'on a commencé, qu'on a trouvé l'adjectif utopique, qu'on l'a développé, qu'après on juge des projets des réformes sociales comme utopiques, pour les disqualifier évidemment, ben ça vient d'un livre en fait, mm-hmm. Ça vient de Thomas More. Et donc je pense pas qu'on puisse pas vraiment considérer comme la littérature et d'autres choses comme quelque chose qui soit vraiment séparé du réel.
Et puis, donc tu en as déjà nommé beaucoup, plusieurs exemples. Est-ce qu'il y avait comme un exemple en particulier ou un cas d'étude précis sur lequel tu voulais te pencher aujourd'hui dans l'épisode?
En fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette notion, qui fait partie aussi de mon parcours individuel, qui a toujours une grosse influence pour moi dans la recherche. Moi, j'ai toujours fait de la théorie parce que je comprenais pas le monde. Et donc, ça me permettait de faire une théorie un peu à la Bell Hooks, évidemment. C'est pas une théorie, on jase des choses, puis on rentre chez nous, on fait toute autre chose. Pour moi, la théorie, c'est vraiment une question de adéquation de ma vie, de mes valeurs aux objets que j'ai étudiés surtout et sur lesquels je travaille. Et donc pour moi, les exemples de faire du monde, c'est constant. C'est-à-dire dès qu'on... Et c'est là aussi la tournure un peu du care, de la réflexion féministe, mm-hmm. mais aussi la notion performative dans les queer studies inaugurées par Judith Butler et compagnie. C'est en fait, on fait toujours du monde à chaque chose qu'on fait. Et donc, pour moi, ça implique beaucoup de responsabilités parce que dans un monde dans lequel on dit les femmes n'ont pas le droit de se voiler dans la rue, dans les écoles, on est en train de créer un monde spécifique. Mm-hmm. Les politiques, mais aussi les savoirs sont en train de produire un monde spécifique dans lequel on dit que ces personnes-là n'ont pas de place dans une école à moins qu'elles renoncent, que ces personnes-là renoncent à une partie d'elles-mêmes. Et moi, ça, je trouve très problématique. Pour moi, c'est devenu world making, créer des mondes. C'est vraiment une question des responsabilités lourdes, dans le sens, ça a des effets concrets. Et de la même manière, dans les études, dès qu'on décide qu'en littérature, on ne peut pas, je ne sais pas, étudier Deleuze, on est en train de décider que la littérature doit être une certaine chose, ce qui en exclut d'autres. Et ça crée des mondes, je dirais, plus petits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des mondes de plus en plus larges. Aussi, dès qu'on... Je sais pas, il y a tellement d'exemples aussi dans les milieux universitaires, parce que c'est d'où on vient, où il y a plein de micro-actes qui sont parfois faits stratégiquement. C'est-à-dire, parfois, c'est bien de restreindre un peu un petit monde pour ensuite l'élargir de manière tactique plus tard. Parfois, on le fait sans même y avoir réfléchi, parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait. Et parfois, on le fait de manière très consciente. Et je trouve qu'on crée des mondes de plus en plus petits pour les étudiants, pour les personnes. Ça peut être pour les personnes racisées, mais même pour les personnes qui ont des privilèges. La question, on prend un des chevaux des batailles de la chaire de recherche de Marcello depuis un petit moment. Dès qu'on décide qu'on peut appliquer sur certains financements seulement si on a une certaine moyenne ou un certain sujet d'étude ou une certaine approche, on est en train de restreindre le monde dans lequel on vit. Et ça, je trouve, ça me dépasse complètement parce que je trouve la chose intéressante, c'est d'ouvrir les possibles de plus en plus.
Je pense que ça nous mène déjà à la troisième question, mais on va pouvoir s'étendre plus. Notre troisième question qui était en quoi est-ce que cette notion nous fait dysfonctionner ou perdre du temps? on voit déjà des problèmes et donc la dysfonction. Je me demande aussi, par contre, là, donc d'une manière perte de temps, entre guillemets, qui nous occuperait si on se penchait plus sur ces questions d'inclusion et si on se... En fait, pour beaucoup de personnes, de débattre et d'inclusivité et d'équité, ce sont des questions qui aboutissent à des cul-de-sac ou pour qui ce sont des questions très, très longues qui ne vont que mener à d'autres questions. Et je me demande donc, dans cette veine, en quoi est-ce que cette perte de temps est au final nécessaire? Et puis, tu parlais aussi tout à l'heure de, puisqu'il y a toutes sortes de mondes, eh bien, comment est-ce qu'on peut concilier, si on veut, l'existence de cette pluralité de mondes? Donc, voilà, ça me fait plusieurs sous-questions, mais je nous dirige vers cette avenue.
Alors, effectivement, ce sont beaucoup des questions. J'irai un peu en partageant aussi un des soucis que j'avais avant d'accepter l'invitation, parce qu'une partie de votre travail se base sur réfuler la notion de productivité. Mm-hmm. Je suis un peu partagé par rapport à ça. Je pense que la notion de world making, etc., avec tous les sens des responsabilités que moi je lui attache, d'une part, effectivement, c'est anti-productiviste. Si par productivisme, on prend l'idéologie capitaliste de notre société depuis un petit moment. Mais c'est une notion quand même hyper productrice. Mm-hmm. Si on fait la différence, parce que ça produit des mondes déjà, des bases. Donc, ouais. Ça nous amène aussi à penser, OK, quel monde on veut produire? Quel monde on veut contribuer à produire? Dans quel monde, moi, j'ai envie d'habiter? Quelle place j'ai fait dans mon monde pour l'inconnu, pour les différents, les dysfonctionnels? Donc, selon moi, c'est une notion très précieuse, très juste aussi, parce que ça permet de réfléchir au monde qu'on est en train de créer, chose qu'on fait un peu de moins en moins. On joue sur les produits, puis c'est tout, sans trop y réfléchir. Ben, la perte de temps, c'est fondamental déjà, surtout parce que ça permet de réfléchir. Et réfléchir, c'est perdre du temps, parce que ça, c'est aussi une chose que, selon moi, l'université a complètement mis d'à côté, c'est l'échec. Mm-hmm. Surtout dans les sciences humaines. En informatique, en mathématiques, dans des sciences dites « dures », entre guillemets, on accepte beaucoup plus l'échec parce qu'on fait une expérience, puis ça fonctionne, ça fonctionne pas. En sciences humaines, on a un déficit de légitimité vis-à-vis de ces sciences-là qui ont été instaurées comme paradigme de ce qui est l'objectivité scientifique sans se questionner sur le fait que c'est un discours circulaire qui tourne autour de lui-même. Parce que si on prend, il faut qu'un expériment, une expérience soit répétable par tout et n'importe qui, mais parce qu'on a pris des paramètres pour pouvoir la reproduire qui font du sens à l'intérieur de la même expérience. Et si on change l'humidité, ben, du mal, mais l'humidité, ça compte pas dans cette expérience. Mais pourquoi? Donc, on a choisi de ça. Donc, déjà, l'objectivité scientifique est quelque chose à revoir. Ça a commencé au moins en 88 avec les savoirs situés de Donna Haraway, déjà. Et ensuite, la perte de temps, c'est fondamental. Il faut perdre du temps parce que on peut pas juste réagir. Dès qu'on réagit, si on prend aussi le fonctionnement psychologique des êtres humains, dès qu'on réagit, on reproduit des traumas. On reproduit ce qui a toujours été fait. Il faut dire, OK, mais là, et ça, c'est où, selon moi, la notion de world making avec l'effet, OK, moi, je suis en train de faire ces gestes, mais ces gestes, qu'est-ce que ça va créer, ces gestes? Ben, ça, déjà, poser la question, c'est suspendre l'action pour dire, OK, si moi, je vais faire, un truc de l'université. Je fais un examen des synthèses en une semaine, etc. Bah, on a toujours fait ça, c'est comme ça. Mais oui, mais quel type d'examen on fait? Les recherches montrent aussi qu'il y a des évaluations continues qui sont beaucoup plus proches de la réalité. Puis si je suis malade les jours de l'examen des synthèses, bah, je vais les couler, mais je suis malade. On est malade. Donc ça voudrait dire que moi, je ne devrais pas être malade. C'est ça, c'est un monde qu'on veut créer. Et donc ça permet de se questionner sur ce qu'on va créer. Ce qui veut dire, c'est se questionner sur d'où on vient et où on veut aller. Je trouve une chose que je trouve super intéressante dans la notion de créer des mondes, c'est aussi réintégrer certaines futurités, notamment temporalités, notamment plus autochtones ou afro-futurités, ce qui est, en fait, le futur est circulaire et aussi en arrière de nos actions, parce que moi, je peux poser une action pour créer un monde dans le futur et juste les voir comme une ligne qui va dans une direction, mais je peux aussi penser, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire pour que le futur soit différent? Et donc, voir de la chose de manière beaucoup plus circulaire et se dire, OK, mais là, par exemple, si moi, je ne sais pas, peu importe, si moi je vote à droite ou à gauche, qu'est-ce que je veux faire? Ben, c'est une action qui a un impact aujourd'hui dans le futur. Et je trouve que c'est intéressant d'évaluer le futur à partir du présent dans lequel il a été évolué. Dans le sens, oh, moi, je vais développer ChatGPT et puis lancer l'intelligence artificielle, ça va être magnifique. Et ça, oui, mais dans les présents actuels, qu'est-ce que ça veut dire faire ça? Ça veut dire surcharger les serveurs, ça veut dire du colonialisme territorial, déjà, ça veut dire de l'exploitation des ressources naturelles, ça veut dire qu'en Afrique, les gens se font tuer pour les minéraux rares. dont on a besoin pour que moi je puisse chercher sur ChatGPT comment on fait une recette d'une pâte. Est-ce que c'est vraiment ça le monde qu'on veut voir? Ensuite, pour revenir encore un peu sur un adjectif que tu as utilisé, pourquoi cette notion est nécessaire? Moi, je pense pas que ce soit nécessaire, en fait. Je pense qu'il y a rien qui soit nécessaire, ou tout est nécessaire, donc c'est un peu la même chose. Je pense que c'est un choix, en fait. On peut tranquillement vivre sans se poser des questions, et on habite dans des mondes, on continue d'habiter des mondes. C'est moi, avant d'arriver à Montréal, j'aurais pu reproduire toute ma sociabilisation masculine, italienne, d'une petite ville et compagnie, sans me poser des questions. Ça aurait été pas nécessaire. Moi, j'aurais quand même vécu, j'aurais fait mes choses pareil. Mais pour moi, c'est, là aussi, il s'agit de dire, c'est un choix, en fait, de faire ça. Il y a rien qui, il y a très peu de choses qui sont nécessaires. Et pour moi, c'est vraiment un choix, un engagement politique, au sens vraiment le plus large possible. Quant à la notion de DEI, ben, on en revient là, et c'est aussi, ce sont deux mondes qu'on veut créer, et surtout sur les politiques et DEI, moi, je suis très critique, malgré le fait que je travaille dans un milieu universitaire, dans les milieux institutionnels, parce que ça a été complètement récupéré de manière non performative, toujours pour reprendre les mots de Salah Ahmed, qui dit, ben, on peut dire, moi, je suis pas raciste. Moi, j'habite sur un territoire non cédé. Puis je fais plus rien, mais moi, j'ai une bonne conscience d'avoir fait, et en fait, je suis en train de retarder, voire de faire reculer les causes pour lesquelles, en théorie, j'exprime. Et l'équité, diversité, inclusion, c'est la même chose, parce qu'on a beau dire, surtout avec les données, cette obsession qu'on a pour les données, pour les stats, c'est aussi de dire, ben, tu sais, au département X, n'importe quel département, on a embauché 3 profs autochtones. Cool. Et après, ils sont traités comment? Ces personnes sont traitées comment? Après, quelles sont les opportunités? Quel type de travail on leur donne? Est-ce qu'on les met sur des comités autochtones parce que ces personnes-là sont autochtones, donc sûrement connaissent les enjeux autochtones? Ça aussi, c'est une mini-forme de racisme, si on veut, de colonialisme. Et donc, là aussi, il faut penser à ce qu'on est en train de faire. Comment on veut faire de l'EDI? Comment on veut militer pour cette cause? Parce que si on dit, moi, mon monde idéal, un monde très inclusif, c'est un monde où n'importe qui peut s'inscrire à l'université. C'est déjà le cas. N'importe qui peut s'inscrire à l'université. On a mis des critères de notes, ça aussi, il faudrait en revoir. Il faudrait aussi penser à ce qui sont les conséquences psychologiques. L'enquête de la FAECUM sur la santé mentale des étudiants montrait déjà que les étudiants au bac à l'Université de Montréal avaient en moyenne 54% des étudiants avaient des troubles de santé psychologique, alors que dans les mondes, les données montrent que c'est plutôt 30%. Et on sait pourquoi, donc. C'est pas posé la question. Et après, c'est ça. Est-ce que, bah, on va juste rajouter des gens, puis après, c'est toujours les hommes blancs, cis, het, d'origine européenne ou nord-américaine, privilégiés, bourgeois. Souvent, ce sont les fils des profs qui deviennent profs. Et est-ce que ça, c'est le monde qu'on veut créer? Là, c'est effectivement le monde qu'on est en train de créer dans les milieux universitaires et un peu dans la société au sens large. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en question. Et l'EDI, c'est un outil pour faire ça. Mais que ce soit un outil militant, engageant, dans le sens, non, comme ça, ça marche pas du tout. C'est pas parce qu'on a plus de femmes que les choses vont bien.
Mm-hmm. Donc, je me demande, que se passe-t-il s'il y a des visions, en fait, des mondes conflictuels? Mais que les deux aspirent à des valeurs qui pourraient être similaires. Est-ce que tu pourrais parler, soit d'un point de vue théorique ou même de tes propres expériences, de conflits, soit épistémologiques, soit même carrément donc pragmatiques, entre des mondes ou des visions du monde?
Ben c'est sûr qu'il va y avoir des conflits, et c'est bien qu'on voit. Pour te relancer un peu de la provocation là-dedans, moi, je ne voudrais pas créer un monde où il n'y a pas de conflits, où il y a juste ma vision du monde. C'est le rêve totalitaire ultime, quoi. Mm-hmm. Puis en plus, il faut aussi bien avouer que moi, je pense des choses aujourd'hui que peut-être il y a 3 semaines, je ne pensais pas. Et puis dans 3 semaines, les choses vont changer, là. Entre, je ne sais pas, coupe des cheveux, on a fait tout le monde change d'avis, des choses qu'on peut manger, etc. Imagine si une fois que tu avais décidé que toi, les matins, tu manges je sais pas, du pain avec du beurre, c'est ça pendant toute ta vie, sans pouvoir changer d'avis. C'est horrible.
C'est horrible.
Exact. Donc, je suis tout à fait à l'aise avec ça. D'un point de vue épistémique, je te dirais, et ça, c'est, y a aucune vision du monde qui est meilleure que l'autre en tant que telle. C'est parce que dans notre société, on a décidé qu'on veut plus être raciste, qu'on s'en va dans une société qui est de moins en moins raciste. On pourrait longuement débattre de ça. Mais si après, demain, la société québécoise en entier, ou le canadienne, ou italienne, ou européenne, mondiale, décidait que non, mais en fait, faut exterminer à nouveau les juifs, et tout le monde était d'accord, ben, c'est ce qui se passerait, et on serait dans un confort, dans un monde dans lequel tout le monde est d'accord, comme ça a été. Et ça, d'une certaine manière, il faut reconnaître que c'est une une possibilité qui est mauvaise d'un point de vue plus structurel qu'épistémique. C'est dans le sens, oui, mais dans le monde où on doit exterminer tous les juifs, est-ce que c'est un monde plus large pour tout le monde? Non. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est ça, le seul jugement qu'on peut porter, c'est est-ce que cette chose augmente la prolifération des mondes ou pas? Ensuite, d'un point de vue scientifique, franchement, je trouve que c'est, il y a plusieurs, chaque domaine, chaque discipline et sous-discipline a ses propres critères de validation de la vérité, de ce qui est considéré vrai, qui évolue. Et ça, c'est un discours qui évolue en plus. Les critères de validation, aujourd'hui, les historiens ont des critères de validation. Dans le monde antique, c'est un tel m'a raconté que. Et ça, c'était tout à fait, c'était vrai. On considérait que c'était vrai, ça. Ou les dieux m'ont visité dans les sommets et m'ont dit que dans cette bataille, il y avait 12 743 chevaliers. Et ah oui, c'est ça, c'est la vérité. C'est juste, ça, c'est un débat qui continue, ça évolue et je vois aucun problème. La chose que je trouve après, dès qu'on arrive dans une gestion de cette différence, c'est notamment, on peut prendre l'évaluation des articles ou des projets de recherche ou des choses. C'est quoi les problèmes? Si moi je veux travailler sur ces sujets ou les questions un autre ou avec une méthodologie différente, pourquoi il doit y avoir autant des compétitions féroces et des critiques dans les milieux du savoir alors qu'on est en train de produire du savoir et les tiens n'est pas meilleur que les miens et les miens n'est pas meilleur que les tiens? À part les critères intrinsèques de validation scientifique. Mais après, moi, je mets en littérature, à moins que tu cites quelque chose qui n'existe pas. Et là aussi, on peut en parler parce que ça donne des résultats très, très, très intéressants. À moins que c'est ça. Si moi, je veux étudier Apollinaire d'un point de vue structuraliste, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'on a besoin de détruire les points de vue des autres pour que notre point de vue soit meilleur? Non, je pense pas. Je pense que ça peut coexister. On est dans des milieux privilégiés, donc ayons du fin. Travaillons sur les choses qui nous animent pour vrai, puis faisons comme ça, puis on verra. Puis des choses vont être oubliées, des choses vont être reprises. On peut penser Flaubert à l'époque, quand il a publié Madame Bovary, était considéré comme un vaurien. Son livre n'était pas les plus fameux, les plus connus, les plus appréciés. Maintenant, c'est Flaubert. Oui. D'un point de vue pragmatique, la communication, c'est la seule chose qui fonctionne, quoi. Deux personnes qui se mettent ensemble et qui ont un problème, et puis elles en discutent, puis ça se peut que en réfléchissant sur ce qui s'est passé, ils découvrent des solutions ensemble, ou juste disent, en fait, ça marche pas. On va faire autre chose. Je pense que c'est les dialogues, la communication, tout en sachant qu'on entre dans des dialogues, pas comme des, comme disait Schopenhauer, comme des têtes d'anges pensantes. On rentre en dialogue, tu sais, comme si toi et moi on parle, moi, on rentre dans un dialogue dans lequel moi, j'ai une sociabilisation masculine, donc moi, je prends la parole et toi pas, probablement. Moi, j'ai toujours été habitué à interrompre les femmes parce que c'est comme ça que les hommes font, interrompre d'autres hommes. Il y a tout un tas de choses à déconstruire pour pouvoir rentrer dans un dialogue qui soit vrai, qui soit honnête, qui soit productif, producteur, mais pas productif, évidemment.
Merci beaucoup, donc, Enrico, d'être venu nous parler de worldmaking et surtout de worldmaking au sens très, 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 très large et dans un sens d'ailleurs d'élargissement aussi. Et c'était ça. On vous retrouve au prochain épisode de Scholem. Merci à tous et toutes.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci d'avoir écouté Scholem, une balade aux diffusions proposée par la Chaire des recherches du Canada sur les écritures numériques. Nous espérons que vous ne retrouverez pas les temps perdus, mais que vous continuerez à en perdre encore. En nous suivant sur scholem.écriturenumérique.ca, S-K-H-O-L-E, écriturenumérique au pluriel.ca, et en écoutant nos prochains épisodes.